VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous, le monde aujourd'hui, édition du jeudi 28 février 2019, en direct de Washington, Eric Manelakiza et Anna Albertson. D'abord, le sommaire.
Un cadavre piégé fait 16 morts à Gonoguro, dans le centre du Mali.
L'ONU veut arrêter les guerres en Afrique d'ici 2020.
Le gouvernement ivoirien dénonce des grèves à relents politiques.
André Akombi Salissa, ancien ministre congolais, candidat à la présidence devant la justice pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État.
Le président Donald Trump, pas pressé de parvenir à un accord sur le nucléaire avec Kim Jong-un.
Et dans des minutes, votre page des sports est la Minute Éco, mais pour l'instant, le journal.
La situation sécuritaire du pays Dogon, dans le centre du Mali, commence à inquiéter. Un cadavre piégé a fait 16 morts à Gonoguro, dans le cercle de Koro. Les victimes étaient parties à la recherche d'un villageois tué par des personnes non identifiées. Les précisions de notre correspondant, Mamoudou Bokoum.
Des cadavres font des morts, c'est une première dans la région de Mopti. Cela s'est passé ce lundi à Gonoguro, dans la commune rurale de Diankabou, cercle de Koro, près de 260 km de Mopti. Des hommes en armes non identifiées ont assassiné un bûcheron avant de piéger le cadavre. Les auteurs du crime ont dirigé son âne avec la charrette vers le village pour attirer l'attention des villageois et servir d'appât afin de faire d'autres victimes. L'âne est arrivé au village sans son propriétaire et les villageois se sont lancés à sa recherche. 16 personnes ont suivi les traces de la charrette jusqu'au cadavre piégé selon nos sources. En voulant le récupérer, l'engin a explosé et le bilan est catastrophique. Les 16 personnes sont mortes sur le coup, ce qui porte à 17 les victimes. Le village de Gonoguro est inquiet pour cette nouvelle stratégie. Il faut signaler que ce village fait frontière avec la commune de Djungani, d'où est partie cette crise qui secoue le pays Dogon. Le même lundi, un véhicule des forains venant de Dinangourou a sauté sur une mine faisant 2 morts et 8 blessés. Les blessés sont admis à l'hôpital Somine Doulo de Mopti. Au même moment, on nous signale le déplacement des 70 familles Dogon de Yara, commune de Baï vers Koro. Le pays Dogon est en phase de devenir un no man's land où les détenteurs de l'arme dictent sa loi à la population, aux vies et aux su de tous. Mamoudou Bokouma Mopti pour la Voix de l'Amérique.
Et pour rappel, le 14 février, 2 soldats ont été tués dans le nord du Burkina voisin par un procédé similaire.
Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté hier à l'unanimité une résolution poussant à arrêter toutes les guerres en Afrique d'ici 2020. Les pays africains avaient pris l'engagement depuis 2013, mais jamais concrétisé jusqu'à présent. Le point avec Nanit Talani.
Il appartient à l'Union africaine, à ses États membres, à leur population et à leurs institutions, y compris leur société civile, de construire une Afrique sans conflit, souligne la résolution de l'ONU. Le Conseil de sécurité exprime son appui aux initiatives visant à trouver des solutions africaines aux problèmes africains. Le but d'une Afrique sans conflit figurait déjà dans une déclaration adoptée le 26 mai 2013 lors du 50e anniversaire de l'Organisation de l'Union africaine. Un projet de résolution initié fin 2018 par l'Afrique sur un cofinancement par l'ONU d'opérations de paix africaines reste dans l'impasse. En 2019, les plus importantes opérations de paix sur le continent sont notamment au Soudan du Sud, en République démocratique du Congo, en Centrafrique ou au Mali. Pour jeter les bases solides d'une paix et d'une stabilité durable, l'ONU engage les États membres de l'Union africaine à renforcer la bonne gouvernance, l'élimination de la corruption, le renforcement des institutions démocratiques, le respect des droits de l'homme et la responsabilité.
Malgré la signature d'un accord de paix en Centrafrique, la ministre française des Armées, Florence Parly, affiche un optimisme modéré pour les perspectives du pays, soulignant le combat d'influence engagé par la Russie dans ce pays.
Au Nigeria, l'opposant Atiku Abubakar a dénoncé hier une parodie d'élection et a annoncé qu'il allait saisir la justice pour contester les résultats de la présidentielle, donnant le sortant Muhammadu Buhari largement vainqueur.
Et au Sénégal, on attend aujourd'hui les résultats provisoires du premier tour de la présidentielle du 24 février. Le président de la Commission nationale de recensement des votes, le magistrat Demba Kandji, a prévu l'annonce à 11h heure locale. Le camp du président sortant Macky Sall revendique la victoire, tandis que ses quatre opposants entendent le contraindre à un second tour à l'issue indécise.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement a estimé hier que la grève des enseignants, des écoliers primaires, secondaires et des professeurs de l'université Félix Houphouët-Boigny est politique. La grève des enseignants est en train dans sa sixième semaine et paralyse tout le système éducatif du pays, n'est-ce pas, Abdulrahman Dia?
Ce sont des grèves qui ne sont pas justifiées et qui, pour la substance, ont un relent fortement politique, a déclaré hier Sidi Touré, porte-parole du gouvernement, à l'issue du Conseil des ministres. Tous les points de revendication ont obtenu un accord qui a abouti à la trêve sociale, a poursuivi M. Touré, soulignant que la partie gouvernementale joue sa partition. Les enseignants du primaire exigent la suppression des cours du mercredi. Ceux du secondaire réclament une hausse des indemnités de logement appuyée par leurs collègues du primaire. Et l'incarcération, il y a une semaine, de Johnson Zamina Kwasi, secrétaire général du premier syndicat des professeurs d'université publique, a aggravé la situation déjà tendue dans le supérieur. Il est accusé de troubles à l'ordre public. Les fonctionnaires exigent sa libération et menacent de généraliser le mouvement. Dans le secteur public ivoirien, les grèves sont récurrentes malgré la signature en août 2017 d'une trêve sociale de 5 ans après paiement sur plusieurs années d'arriérés de salaire à environ 130 000 fonctionnaires.
Au Congo-Brazzaville, l'ancien ministre et candidat malheureux à la présidentielle de 2016, André Okombi Salissa, a nié hier avoir détenu illégalement des armes et munitions de guerre. Il comparaît devant la justice qu'il accuse d'atteinte à la sécurité intérieure de l'État. Le point avec Raissa Girondin.
« Je n'ai jamais détenu illégalement des armes et des munitions de guerre », a déclaré M. Okombi Salissa à son procès devant la cour criminelle à Brazzaville. Selon ce tribunal, des armes ont été saisies en 2016 dans un domicile appartenant à son épouse, 17 Kalachnikov, des lance-roquettes et plus d'une dizaine de caisses de munitions ont été présentées sous scellé à l'audience. L'expertise de l'armée a démontré que ces armes lui appartiennent. Elles ne peuvent pas appartenir à la fois à l'armée et à moi, a réagi l'accusé, ajoutant « Si je n'avais pas pris part à l'élection présidentielle de 2016, je ne serais pas ici, devant la barre ». Ancien membre du PCT au pouvoir, ministre dans tous les gouvernements de 1997 à 2012, André Okombi Salissa, 56 ans, est passé à l'opposition à l'approche de la présidentielle de 2016, remportée par Denis Sassou Nguesso. Monsieur Okombi Salissa n'a jamais reconnu les résultats, tout comme un autre candidat, le général Jean-Marie Michel Mokoko, 71 ans, ancien chef d'état-major, qui a été jugé et condamné en 2018 à 20 ans de prison.
Raissa Girondin, le vice-président soudanais, a assuré que l'état d'urgence décrété récemment dans tout le pays n'était pas destiné à juguler les manifestations contre le président Omar el-Béchir, mais à lutter contre la contrebande.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un ont repris aujourd'hui leur discussion à Hanoï sur l'épineuse question de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. Mais le chef de la Maison-Blanche a tempéré d'avance les attentes sur la possibilité d'une percée à court terme. Précision de Jean-Roger Bion.
Je ne suis pas pressé de parvenir à un accord qui verrait la Corée du Nord mettre au rebut son arsenal nucléaire, a redit Donald Trump avant de s'asseoir pour le deuxième et dernier jour du sommet. La vitesse n'est pas si importante que ça pour moi, a insisté le locataire de la Maison-Blanche. Le président américain dit régulièrement qu'il n'y a nul besoin de se précipiter pour convaincre Pyongyang de désarmer tant que celui-ci s'abstiendra, comme il le fait depuis plus d'un an, de procéder à des tirs de missiles et des essais nucléaires. Pour sa part, Kim Jong-un a promis de faire de son mieux pour parvenir à de grands résultats, même s'il y a des gens qui considèrent cette rencontre avec scepticisme. Il a salué la décision courageuse de Donald Trump d'ouvrir un dialogue avec son pays. Après leur tête-à-tête initial aujourd'hui au Sofitel Legend Métropole, luxueux établissement situé en plein cœur de Hanoï, les discussions se poursuivront avec leurs conseillers selon la Maison-Blanche. Sont ensuite prévues une cérémonie de signature d'un accord conjoint sans autre détail et une conférence de presse avant le départ de Donald Trump pour Washington.
Et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un s'est dit favorable à l'ouverture d'un bureau de liaison américain à Pyongyang.
Ici à Washington, l'ex-avocat personnel du président américain a brossé ce mercredi un sombre portrait de la galaxie Trump. Michael Cohen a travaillé 10 ans durant pour la Trump Organization et pendant plusieurs heures d'une audition retentissante au Congrès a raconté sa version de l'homme qu'il a longtemps admiré et auquel il a été de son propre aveu. Aveuglement loyal.
Le Conseil de sécurité de l'ONU est appelé à voter aujourd'hui sur deux projets de résolution concurrents sur le Venezuela, l'un porté par les États-Unis, l'autre par la Russie, mais tous deux sont voués à l'échec selon des diplomates. Le texte américain appelle à des élections présidentielles libres, justes et crédibles et à des livraisons d'aide humanitaire sans entrave au Venezuela. Fin de ce journal sur VOA Afrique, vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
Et dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, nous retrouvons Nanit Sylvani Talani.
Le président de l'Association des paysans centrafricains, Pascal Bida Koyakbele, accueille la deuxième promotion des soldats de la terre. 60 élèves agriculteurs venant de différentes régions de la République centrafricaine vont travailler pendant 4 mois dans sa ferme biologique pour recevoir une formation aux techniques agricoles. Après, ils vont retourner dans leur village, utiliser et propager ces techniques. Le taux de chômage a légèrement baissé l'an dernier au Maroc, passant de 10,2% à 9,8%, mais continue de toucher les jeunes urbains et les diplômés. Dans les villes, plus de 4 jeunes sur 10, soit 43%, âgés de 15 à 24 ans, sont au chômage. Le chômage augmente avec le niveau de qualification, touchant 40% des diplômés de niveau moyen et plus de 23% de ceux de niveau supérieur. Il touche aussi de plein fouet les femmes, avec un taux de 14%. Contre 8,4% chez les hommes. Pour finir, l'Arabie Saoudite souhaite une prolongation des réductions de production de pétrole au second semestre de cette année. Le mois dernier, les pays membres de l'OPEP et d'autres grands producteurs de pétrole ont commencé à mettre en œuvre un nouvel accord de 6 mois visant à réduire la production de 1,2 million de barils par jour pour soutenir les prix. Cet accord a contribué à la hausse des prix, mais pas assez pour certains membres de l'OPEP.
Et nous passons au sport directement avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Eric, bonjour à tous.
On commence par le Classico. Eh bien, le Barça corrige le Real pour une 6e finale de rang en Coupe du Roi, n'est-ce pas?
Oui, au stade Santiago Bernabéu, 2 buts de Suarez à la 50e et à la 73e et 1 but contre son camp de Raphaël Varane à la 69e ont donné la victoire aux Catalans après un nul 1-1 à l'aller. Ce sera la 6e finale d'affilée pour le Barça, un record. Lors de la finale le 25 mai à Séville, le club quadruple tenant du titre briguera un quintuplé inédit contre Valence ou le Betis qui s'affrontent ce soir. Dans l'autre demi-finale, le score était de 2-2 à l'aller.
Et en Coupe de France, Lyon et Rennes rejoignent le Paris Saint-Germain en demi-finale.
Lyon et Rennes se sont qualifiés pour les demi-finales en battant à domicile respectivement Caen 3-1 et Orléans 2-0, avec Paris qui avait écarté Dijon 3-0 mardi. Rennes et Lyon forment un trio 100% Ligue 1 dans le dernier carré de cette coupe. Dorénavant, seul Vitré Club de National 2 peut espérer créer l'exploit face à l'élite. Pour continuer à rêver, le petit pousset breton devra battre le FC Nantes mercredi 6 mars à Laval lors du dernier quart de finale. Avant même le résultat de ce match, le tirage au sort des demi-finales aura lieu dès ce soir.
Alors, on traverse l'Atlantique, retour ici aux États-Unis où Washington veut un tournoi des Amériques en 2020.
Oui, la Fédération américaine de football veut organiser en 2020 un tournoi des Amériques regroupant les 10 nations d'Amérique du Sud et les 6 meilleurs de la partie nord du continent. La compétition se déroulerait en même temps que l'Euro 2020 de football, prévu dans 12 villes du vieux continent. Selon le New York Times, l'événement va générer environ 200 millions de dollars à partager entre les équipes participantes et leur fédération. Le vainqueur toucherait à lui seul 11 millions de dollars.
Et pour terminer, on traverse et l'Atlantique et la Méditerranée pour atterrir dans les Grands Lacs au Rwanda. Le cyclisme avec l'acte 5 du Tour du Pays des Mille et Une Collines, c'est aujourd'hui à Cuba.
Oui, le peloton ira de Karundji à Mouzansé. Hier, le Colombien Edwin Avila Vanegas s'est imposé en 2h37 devant l'Espagnol Pablo Muino Torres et l'Érythréen Cyrac Tesfom. Vainqueur de l'événement l'année dernière, le Rwandais Rwandais Samuel Mugisha termine cette étape à la 4e place. Au classement général, pas de grand changement. Kudus reste leader avec 17 secondes d'avance sur Rain Taramae. Matteo Badilati est à 45 secondes. Pour les classements individuels, Muino Torres récupère le maillot de la montagne. Roigne de Ploy garde celui du sprint. Jacob Dibessi est le meilleur jeune jusque-là. Et enfin, Didier Munyaneza est le meilleur Rwandais.
C'était des sports de Yakuba Ouedraogo. Merci Yakuba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Eric Manelakiza. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Les Centrafricains retiennent encore leur souffle pour connaître les membres du nouveau gouvernement issu de l'accord de Khartoum. Le nouveau Premier ministre Firmin Ngrebada a officiellement pris ses fonctions ce mercredi. De Bangui, la correspondance de Freeman Sipila.
Firmin Ngrebada, 51 ans, était avant sa nomination directeur de cabinet du président Faustin Archange Touadéra. Son choix à la tête du gouvernement est sans surprise car son nom circulait déjà sur les réseaux sociaux avant même la démission de son prédécesseur Simplice Mathieu Sarandi. Chef de la délégation gouvernementale au pourparlers de Khartoum fin janvier et début février avec les groupes armés, le choix de Firmin Ngrebada est diversement apprécié par groupes rebelles, partis politiques et sociétés civiles. Tous veulent voir un premier ministre rassembleur avec un gouvernement de réconciliation comme l'exige l'accord de Khartoum. Régis Benzi, conseiller politique de l'Union des forces républicaines fondamentales UFRF, un des mouvements armés.
Le choix du nouveau Premier ministre en la personne de Firmin Ngrebada, c'est un choix qui va dans la même direction du travail accompli. Tout ce que le Centrafricain veut aujourd'hui, c'est la pacification du pays, le respect des institutions, la relance économique du pays pour qu'on arrive à s'arrêter à d'autres nations parce qu'on est tellement en retard que c'est un plus pour le pays.
La société civile se veut prudente et attend de juger l'homme à l'œuvre. Paul Cresson Beninga, porte-parole du groupe de travail de la société civile.
Nous n'allons pas faire une fixation sur l'identité de la personne nommée. Donc je pense que nous allons le juger au pied de mur. On reconnaît un bon maçon au pied de mur, donc nous n'allons pas très vite aller en besogne et dire que ça a été un mauvais choix. Il faut donner du temps et nous allons apprécier au fur et à mesure que les choses évoluent. Et je pense que le premier élément d'appréciation, ce sera le gouvernement qui va être mise en place.
Une nomination saluée également par la MINUSCA, la mission de l'ONU en Centrafrique. Vladimir Monteiro, son porte-parole.
Non, notre partenaire principal en République centrafricaine, ce sont les autorités, évidemment. Lorsque une nouvelle autorité prend ses fonctions, nous saluons et nous avons hâte de commencer à travailler, notamment à un moment où le pays cherche à mettre en œuvre un accord de paix et avancer vers le relèvement.
Prenant officiellement ses fonctions ce mercredi, le nouveau Premier ministre a salué tout le travail accompli par son prédécesseur. Firmin Ngrebada dévoile ses priorités.
Je suis confiant de l'immensité de la responsabilité et de sa délicatesse. Je connais aussi l'espoir que suscite au sein de notre peuple cette nomination. Nous allons continuer à travailler dans le domaine du relèvement économique. L'accord de Bangui, qu'on appelle l'accord de Khartoum, donne un nouvel horizon. Dans ce cadre, nous en ferons un pilier supplémentaire de la politique du gouvernement. Nous ferons également de notre mieux pour que les engagements pris à Khartoum soient honorés, pour qu'enfin notre pays puisse connaître la paix, la sécurité.
Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Bangui, c'est sur 101.7 FM en République centrafricaine.
Au Sénégal, les nombreuses confréries ne s'occupent pas seulement de religion et sont également le socle de la stabilité du pays. Mouride, Tidjane, Khadr, Layene et sont au centre de la vie politique sénégalaise. Et dans l'attente des résultats de la présidentielle de dimanche, Salwa Djafari s'est rendu à Touba, le chef-lieu des Mourides. Voici son reportage.
Avec ses artères étroites et ses ruelles ensablées, Touba n'a peut-être l'air de rien, mais son rayonnement est indéniable. Au bout de cette route, la grande mosquée de Touba. Chaque année, au mois de novembre, des millions de pèlerins convergent vers ce lieu saint pour le Grand Magal. La commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, fondateur de la confrérie Mouride.
Pour le talibé Saline Saliou, le mouridisme est bien plus que ça.
La tariqa mouride représente pour nous et pour moi personnellement tout. Parce que l'islam est égal au mouridisme. Et le mouridisme est égal à l'islam. Et que le mouridisme, c'est la voie qui nous mène au Seigneur de façon pacifique.
Un lien spirituel dont les politiques sont bien conscients. La confrérie Mouride, Tidjane, Layène ou autres sont donc sollicitées avant chaque élection présidentielle. Souvenez-vous, au lendemain de son élection, Abdoulaye Wade était venu se prosterner en signe d'allégeance devant Serigne Saliou Mbake, ancien calife général de la confrérie. Alors, pour les candidats aux élections, Touba est un passage obligé. Docteur Shirgey a publié un livre sur l'histoire de la ville de Touba.
Le marabout est plus respecté par le citoyen. Et ce citoyen-là se reconnaît en son marabout, en fait son modèle et en fait son guide. De ce point de vue-là, le citoyen est aussi un disciple. Et l'homme politique est également un disciple.
En cas de tension, on demande au calife de jouer au médiateur pour maintenir la paix, trouver des compromis. Pour le directeur de la bibliothèque de Touba, la confrérie ne fait que perpétuer la tradition musulmane.
Dans le contexte actuel, comme le veut le mouridisme, le calife lance tout le temps des appels au calme, des appels contre toute forme de violence.
Léopold Sédar Senghor, de confession chrétienne, a mené une nation majoritairement musulmane parce qu'il a entretenu des rapports cordiaux avec tous les guides religieux. Une tradition perpétuée aujourd'hui par ses successeurs, l'influence des confréries n'est pas près de disparaître au Sénégal. Salwa Jafari, VOA Afrique, Touba.
Cette semaine, dans Washington Forum, le point sur les élections présidentielles au Sénégal et au Nigeria. Au Sénégal, le camp du président sortant affirme avoir remporté la majorité absolue des votes dans la plupart des régions du pays, ce que conteste l'opposition. Et au Nigeria, la commission électorale a annoncé la victoire du président sortant, Muhammadu Buhari, avec 56% des suffrages contre 41% pour son rival Atiku Abubakar. Comment se sont déroulées ces élections et quels en sont les enjeux? Morgane Guiriec, en votre compagnie, on en discute ce jeudi à 19h, temps universel.
Réunis à Yaoundé, les organismes environnementaux de la sous-région et les partenaires internationaux ont une nouvelle fois tiré la sonnette d'alarme sur le danger de la conversion des terres forestières en Afrique centrale. Une étude conduite depuis 2016 au Cameroun, en République du Congo, au Gabon et en République centrafricaine indique que les grands projets de développement sont devenus facteurs de déboisement dans 4 pays d'Afrique centrale. De Yaoundé, les précisions de Emmanuel Jules Tap.
Le Gabon ambitionne devenir un pays émergent en 2025, soit 10 ans avant le Cameroun. Des ambitions qui imposent à ces deux pays la réalisation de grands projets d'investissement, causant par la même occasion la disparition des forêts. Samuel Ngifo, secrétaire général du Centre pour l'environnement et le développement, une ONG basée au Cameroun.
La construction d'un port, ce n'est pas une activité forestière. Mais quand ça se fait sur la zone forestière, cela se traduit par un défrichement de la forêt. En marche, normalement, des processus d'attribution des terres forestières, on s'est rendu compte que la législation n'est pas suffisamment précise sur ce volet-là qui devenait de plus en plus important dans notre pays.
Depuis 2008, plus de 3 millions d'hectares de terres forestières ont été concédés en Afrique centrale pour l'agriculture industrielle, la mine et les grandes infrastructures, affirment les ONG environnementales. C'est notamment le cas en RCA, Saint-Jérôme-Sitamon, de l'ONG La Maison de l'Enfant et de la Femme Pygmy.
L'exploitation minière, elle est censée par exemple être faite à une certaine distance de la route. Or, les gens exploitent, ça rentre dans la route. Il y a des problèmes environnementaux graves. Il y a même des forestiers, n'est-ce pas, qui s'investissent dans l'exploitation minière alors que ce n'est pas dans leur mandat. Ces dérives-là, on a pu dénoncer.
Pour espérer réduire l'exploitation illégale et les changements de couvert forestier, dans le cadre d'investissements non forestiers, les législateurs d'Afrique centrale ont été intégrés dans le projet lancé en 2016. Cependant, le phénomène perdure. Jean-Jacques Zam, député et coordinateur Cameroun du réseau des parlementaires pour la gestion durable durable des écosystèmes forestiers d'Afrique centrale.
Il y a des gens qui disent qu'ils veulent investir par exemple dans l'agriculture. Ils prennent des permis au niveau du gouvernement. Tout cela ne se traduit pas par des investissements non forestiers.
Quelques résultats probants ont été néanmoins enregistrés à travers l'activisme des ONG. En République du Congo par exemple, où la conversion des terres au profit des grands projets d'investissement a été réduite de 60%. Alban Ntiété de l'Observatoire congolais des droits de l'homme.
Il y a eu pas mal de activités agro-industrielles qui ont déboisé, notamment la société Atama Plantation, qui aujourd'hui, vu les activités sont suspendues, et qui avait acquis une superficie de 500 000 hectares pour pouvoir mettre en place les plantations de palmeraies. Vous vous rendez compte que c'était vraiment une situation qui était criarde.
Selon les experts, seule une révision de la législation forestière peut réduire les risques d'exploitation forestière illégale et le changement de couvert forestier consécutif aux grands projets d'investissement en Afrique centrale. Yaoundé, Emmanuel Joloutap, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Le FESPACO 2019 se poursuit à Ouagadougou. Ce matin, nous vous présentons Jean-Pierre Bécolo. D'après lui, le cinéma, c'est avant tout une histoire de rencontres. Des rencontres qu'il prend plaisir à raconter dans ses films, à l'image de son tout dernier intitulé « Les armes miraculeuses » en sélection officielle au FESPACO. Jean-Pierre Bécolo explique également l'importance du FESPACO pour l'Afrique.
Je m'appelle Jean-Pierre Bécolo, je suis cinéaste camerounais. Je suis le réalisateur d'un certain nombre de films. Le premier, ce fut Quartier Mozart. Toutes sortes de films, des science-fiction, des documentaires, des drames, voilà. Les armes miraculeuses, c'est une histoire d'un condamné à mort entouré par trois femmes. Trois femmes qui défendent d'abord la vie. Et je pense que c'est un film avant tout sur l'esprit humain, la force de l'esprit face à... disons, à la méchanceté des hommes. C'est un film qui rappelle la négritude par son titre, Les armes miraculeuses d'Aimé Césaire, mais surtout l'idée de se servir, disons, de la langue de l'oppresseur pour se libérer de l'oppression. Je crois que c'est une question intéressante, mais c'est surtout l'idée de défendre la vie contre la peine de mort. La peine de mort qui est ce que subit le noir sous toutes les formes, depuis l'esclavage jusqu'à ce jour. La mort est ce qui est prévu pour un noir, quel que soit le cas, qu'il soit coupable ou non.
They will kill my body. They can't kill my spirit.
Donc le film, pour moi, va bien au-delà de ce que nous voyons de l'histoire. C'est une métaphore et il pose la question de qu'est-ce qui va nous sauver. Est-ce que c'est quelqu'un qui vient de loin, représenté par une des femmes? Est-ce que c'est nous-mêmes, aussi représenté par une des femmes dans le film? Est-ce que c'est le savoir? Est-ce que c'est la connaissance? Le FESPACO, c'est quelque chose que j'ai découvert avec mon premier film à Quartier Mozart. C'est, disons, l'événement qui a fait de moi un Africain, un cinéaste africain, c'est-à-dire que les Ousmane Sembène, les Souleymane Cissé, les Djibril Diop Mambéty, ils nous faisaient ressentir la nécessité, l'importance d'être ce que nous sommes, d'appartenir à ce continent, de le défendre. C'est pas le regard des autres qui définit ce que nous faisons, parce que l'identification est importante, parce que le mimétisme est fort chez les jeunes, chez les enfants. Et je crois qu'il faudrait le positionner pour qu'il soit vraiment un enjeu de transformation de nos sociétés. Être primé au FESPACO est une marque de reconnaissance super importante.
Jean-Pierre Bécolo, réalisateur du film « Les armes miraculeuses » en sélection officielle au FESPACO.
Hello, hello, I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais? C'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com, cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Onde Courte, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Une dernière nouvelle qui vient de nous parvenir avant de vous quitter. Pas d'accord signé entre le président américain Donald Trump et le leader nord-coréen Kim Jong-un après le sommet de Hanoï au Vietnam. Vous aurez les détails dans nos prochaines éditions. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi à la console Jimmy Cook. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à Jean-Roger Billon et à toute l'équipe de la rédaction, Eric Manila-Kiza à Washington. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute des programmes de VOA Afrique.